tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Bonjour, au programme de ce dimanche, trois situations, trois angoisses pour les parents de jeunes enfants, mais aussi trois diagnostics redoutés. Mon enfant est un hyperactif. La tentation est forte devant un enfant difficile, turbulent, de lui coller cette étiquette très à la mode, plutôt que celle de sale gosse. Or, l'hyperactivité n'est qu'un symptôme qui participe à une atteinte psychiatrique très médiatisée, le TDAH, pour trouble, déficit de l'attention, hyperactivité. Autre explication, c'est un surdoué, il s'ennuie à l'école. Combien de fois avons-nous entendu cette explication facile de la turbulence, de l'échec scolaire et de la désobéissance ? Être surdoué n'est pas un jugement bienveillant, mais au-delà du phénomène de mode, disposer d'un haut potentiel est en revanche un diagnostic qui signifie que l'enfant doit être surveillé comme le lait sur le feu. Mon enfant dort mal, il est taciturne et effacé, il semble avoir des difficultés pour communiquer. Sur internet, on dit que ce sont les signes de l'autisme. Attention, diagnostic trop rapide, parce que l'autisme est un trouble du développement qui perdure tout au long de la vie. Alors pour rassurer tous les parents qui nous écoutent, parce qu'en fait la normalité est beaucoup plus fréquente que les problèmes réels, nos invités du jour, le docteur Olivier Revol, chef de service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique au CHU de Lyon, et à ses côtés Cécile Coumeau, journaliste spécialiste des questions de santé. Elle a passé les dernières 24 heures sur les blogs et forums où ces sujets font rage.
Europe 1, pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Bonjour Cécile.
Bonjour Jean-François.
Bonjour docteur.
Bonjour Jean-François.
Alors dites-moi docteur Revol, c'est quoi un enfant normal ? D'ailleurs, est-ce que vous en voyez des enfants normaux ?
Alors c'est une super question que j'entends toute
Merci,
la journée.
Merci, ça commence bien.
Et oui, ça commence très bien. Un enfant normal, il y a une définition sociale, c'est un enfant conforme. Mais est-ce
ça c'est vraiment, vous êtes vraiment un psychiatre là, parce
j'y
que
arrive.
Vous, avec une définition, vous nous dites de donner une autre définition.
Je vous l'illustre.
Ah bon, d'accord.
La petite Chloé qui a 5 ans qui veut pas aller à l'école le matin, est-ce qu'elle est normale docteur ? Me dit la maman.
Ouais.
Le petit Timothée qui a 8 ans qui rentre pas dans la lecture, est-ce qu'il est normal docteur ? Ou le petit Thomas qui a 7 ans, qui fait tomber ses affaires, qui se balance sur sa chaise, est-ce qu'il est normal ? Donc, on a une définition médicale.
Non, mais attends, la réponse, c'est quoi ? Est-ce qu'il est normal ?
Eh bien, si la petite Chloé est précoce,
oui,
en avance, surdouée, et qu'elle ne veut pas aller à l'école parce qu'elle va s'ennuyer, c'est normal qu'elle n'y aille pas et qu'elle n'ait pas envie d'y aller. Si le petit Timothée, eh bien, il ne sait pas lire parce qu'il est dyslexique, c'est normal qu'il ne rentre pas dans la lecture. Donc, il y a une définition médicale qui est bien plus subtile et qui sort de cette définition de ce lieu commun, c'est être dans la norme, c'est est-ce que les caractéristiques de l'enfant sont adaptées aux caractéristiques de l'environnement. Et finalement, je conclue, eh bien, un enfant normal, c'est finalement un enfant qui est capable de s'accepter lui-même et de se faire accepter par les autres tel qu'il est.
Et vous comprenez pourquoi je l'invite, le docteur Revol, c'est toujours très clair avec vous. Alors, le diagnostic, comment on le fait ? Est-ce que le médecin généraliste est adapté à faire ce premier tri ?
Oui, bien sûr. Nos amis médecins généralistes, ça doit être les pivot de ce premier tri, parce que je reprends les exemples de tout à l'heure de Timothée, de Thomas
c'est
et
c'est pas politiquement
Chloé.
Correct, ça, ce que vous êtes en train de
pas
raconter,
du tout,
là.
Pas du tout, parce que qui va nous dire, qui est capable de dire, face à ce petit garçon qui veut pas rentrer dans la lecture, est-ce qu'on a vérifié la vision ?
Oui.
Celui qui parle pas bien, est-ce qu'on a vérifié l'audition ? Or, c'est un problème global.
Les enfants qui vous arrivent ont eu toute cette vérification-là.
Donc, je pense qu'il faut remettre le médecin généraliste à l'origine du soin.
Alors, oui, Cécile. Oui.
La place du généraliste, mais est-ce qu'il faut pas, les mères, elles disent souvent, moi, j'ai l'impression quand même qu'il va pas bien. Est-ce que les mères, elles ont pas tendance à écouter leur petite voix et est-ce que c'est pas bien d'écouter cette petite voix qui vous dit non,
Cécile,
ça va pas ?
J'écoute toujours la voix des mamans et parfois on me le reproche d'ailleurs, mais je pense que.
Comment ça, on vous le reproche ?
Eh bien, mes confrères qui me disent quand même, est-ce que tu pourrais pas prendre un peu de distance,
écoutez moins les mamans,
écoutez plus l'enfant. J'écoute les deux à la fois. C'est ça l'intérêt de la consultation, c'est de regarder l'enfant et écouter la maman, parce que souvent, surtout si elles ont eu d'autres enfants avant, eh bien ce qu'elles nous disent, elles l'ont remarqué et puis ça les travaille beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire qu'en général, plus on va agir tôt, meilleur c'est là, vraiment pour ces problèmes de l'enfance où on a un peu de temps ?
Non, on n'a pas de temps. Enfin, on a du temps bien sûr, mais plus on agit tôt, plus les modifications qu'on va faire vont intervenir rapidement et finalement l'angle dans le développement de l'enfant eh bien, sera beaucoup plus léger. C'est plus facile de le remettre dans le bon axe si on l'a pris tout de suite, c'est clair.
Alors on va voir un neuropédiatre ou un pédopsychiatre. La nuance est importante parce que dans pédopsychiatre, c'est psychiatre de l'enfant et neuropédiatre, c'est de la neurologie. Et on est toujours un petit peu sur le seuil avec ces affections-là.
Alors on a des points communs, les neuropédiatres et les pédopsychiatres, on travaille toujours main dans la main et c'est là aussi que le Le rôle du médecin de famille est important parce que c'est lui qui orientera plutôt vers le neuropédiatre s'il pense que c'est une problématique neurodéveloppementale, génétique, qui nécessite un bilan un peu plus approfondi sur le plan neuropédiatrique. Et s'il a l'impression que c'est plus relationnel, affectif, dans le contact par enfant, il ira plutôt vers le pédopsychiatre.
Cécile Coumou.
Pour revenir sur ces questions d'âge, moi, en regardant les forums, les blogs, ça, de parents qui s'inquiètent, globalement, en grande majorité, les enfants ont entre 3 et 4 ans. Est-ce que l'entrée à l'école est un révélateur de ces problèmes-là ?
Bien oui. L'école est un observatoire magnifique. C'est-à-dire que ce qu'on n'a peut-être pas vu à la maison, parce qu'on a un seuil de tolérance qui est particulier, parce que l'enfant arrive à rentrer en communication par le langage, par des choses infraverbales, mmh. Et bien quand il arrive à l'école, là, il est plongé dans le grand bain, et c'est là que la maîtresse va pouvoir nous dire
donc,
attention.
Donc l'auxiliaire médical principal pour la détection, c'est le corps enseignant.
Ah oui, on ne peut pas travailler sans eux, on a besoin d'eux, et d'ailleurs depuis quelques années, depuis je dirais ce siècle-là, on travaille beaucoup plus main dans la main.
Alors vous avez dit tout à l'heure que les généralistes ont besoin un petit peu de se former. Si on essaye d'éclairer vos mots, est-ce que le corps enseignant est formé à ces problèmes de l'enfant ?
Il commence à l'être. Vous savez, c'est tout récent. La loi sur la reconnaissance de ces enfants différents, c'est 2005. Donc depuis 2005, les rectorats partout en France font un gros travail d'échange. C'est pas uniquement de formation, parce que nous aussi, on a à prendre de nos amis enseignants. Mais autant on avait deux vaisseaux amiraux, les deux piliers du service public, l'école et la santé, qui avançaient un petit peu côte à côte, mais sans trop se regarder, autant maintenant, on a beaucoup de contacts ensemble. Dieu merci.
Vous êtes assez nombreux, les neuropsychiatres ou neuropédiatres, pour pouvoir faire
un
face à la demande.
Un petit peu en voie d'extinction, mais ouais. On arrive à former des plus jeunes, et puis on a nos collaborateurs, les psychologues, qui nous aident.
Ouais, alors justement, il y a un mot que vous n'aviez pas prononcé, qui est psychologue. Les psychologues, quelle est leur place ? Parce que souvent, ils se sentent un petit peu entre le médecin et le patient, à une position qui n'est pas toujours la bonne. Est-ce qu'on peut aller voir directement un psychologue, ou est-ce que c'est toujours une prescription de votre part ?
Non, on peut aller voir directement un psychologue, et les enseignants, les médecins scolaires, les psychologues scolaires orientent, d'abord les psychologues scolaires font des tests et puis elles peuvent orienter vers un test d'évaluation des compétences intellectuelles, le QI, le fameux QI, que la psychologue peut faire en première intention, et même on est même content quand il est fait et que l'enfant arrive avec le QI.
Si je décide d'envoyer mon enfant directement chez un psychologue, je suis remboursé ?
Non.
Ah oui, alors c'est quand même un petit
problème.
Vous
n'êtes pas remboursé en libéral.
Par contre, si je passe par vous...
Non plus.
Le psychologue, c'est jamais remboursé.
Le psychologue en libéral n'est jamais remboursé. Il y a quelques mutuelles qui peuvent prendre parfois une ou deux séances, mais a priori, on n'est pas remboursé en libéral. Par contre, vous avez les psychologues scolaires ou les psychologues des centres médico-psychologiques ou des centres médico-psychopédagogiques, les CMP, CMPP, qui, elles, ne demandent pas d'avance d'argent.
Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif avec l'enfant agité.
Pourquoi docteur ?
Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Jean-François Lemoine.
Nos invités sont le docteur Olivier Revol, qui est chef de service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique au CHU de Lyon, et Cécile Coumou, qui est journaliste spécialiste des questions de santé, qui a beaucoup épluché ces derniers jours, pas pour le repas, mais qui a épluché les blogs sur ces sujets où les parents sont très inquiets. Alors, c'est pas facile, Olivier Revol, de faire la différence entre un enfant turbulent, un peu agité, un peu distrait, et un véritable hyperactif, parce que tous nos gamins, quand on les regarde, on se pose un peu parfois le problème. Or, ça n'a rien à voir entre un diagnostic d'hyperactif et d'enfant un peu agité.
Oui, Jean-François, la turbulence est normale dans l'enfance. Et quand l'enfant, d'ailleurs, commence à découvrir sa motricité, qu'il se met à marcher vers 12, 13, 14, 15 mois, il n'a pas encore le langage et il s'exprime par sa motricité.
Alors, l'enfant qui n'est pas une pile électrique, c'est pas normal ?
La majorité des enfants, en particulier les petits garçons, peut-être les petites filles sont plus sages, mais c'est un problème sociologique.
Je vais vous donner des situations, vous allez me dire s'il faut agir. À table, pendant le repas, il ne reste pas assis.
Ça dépend quel âge il a, mais un petit garçon, on a du mal à le laisser assis à table.
Essayez de me répondre, ça dépend de l'âge qu'il a. On aimerait bien savoir ce que vous allez te dire, ça dépend.
Il y a un âge de raison. Il y a un âge de raison où là, on doit accepter les règles. Je dirais qu'avant 6 ans, c'est difficile pour un enfant de rester assis tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en classe maternelle, on reste debout jusqu'à la grande section. On n'est pas obligé de s'asseoir. On peut se lever et traverser la classe.
Vous allez voir, c'est que des trucs que Cécile connaît bien, qu'il y a des enfants. Attendre avec lui, c'est infernal.
Ah oui, ils n'aiment pas attendre. Jusqu'à l'âge de raison, ils n'aiment pas attendre. Il faut leur apprendre. D'ailleurs, c'est la mission des parents, c'est de leur apprendre à attendre.
Alors moi, c'est difficile de faire toute cette liste de choses, que j'ai eu que des enfants qui étaient sages comme des images absolument adorables.
Ils étaient terrorisés, non ? Ça, c'est pas possible, Jean-François.
Si, je vous jure. À l'école, il est toujours puni et n'a pas de copains.
Là, c'est plus ennuyeux. Là, c'est plus ennuyeux parce que notre mission de parents, c'est de les conduire vers l'autonomie, ex-duquere, conduire dehors. Eh bien, c'est vrai que s'ils ne rentrent pas dans la vie sociale à l'école, c'est compliqué.
Vous allez trop vite. Ex-duquere, c'est pour dire que éduquer, hein,
éduquer.
C'est ça.
Non,
c'est
pour éduquer.
Parce que
c'est
vous
vrai,
allez un peu
vrai.
Vite. Devant un dessin animé, il fait des bonds sur le canapé et c'est plus fort que lui.
C'est bien, il est passionné, il vit ce qu'il voit.
Bon, alors là, on a décrit des enfants. Cécile, vous avez retrouvé un peu les vôtres là-dessus ou pas ?
Oui, enfin moi elles sont j'ai trois filles donc déjà j'ai pas de garçon, c'est un peu différent, mais oui, le repas à table, ça n'arrive jamais qu'on fasse un repas à table à 5 où elles restent assises tout le repas, ça, même à l'âge qu'elles ont aujourd'hui qui est au-delà de 8 ans, on va dire non, ça c'est pas possible.
Un petit peu de discipline à la table des Koumous, ça ferait pas de mal hein. Alors les parents qui écoutent là, on dit Jean-François Lemoyne, il fait une émission sur l'enfant agité, puis il nous décrit des mômes somme toute qu'on de la vie. À quel moment ces symptômes ou ces situations deviennent pathologiques?
Alors, il y a une règle qui est très simple et qui s'applique quels que soient les symptômes. Vous l'appliquez aujourd'hui pour l'agitation, ça peut être pour les troubles anxieux, ça peut être pour la tristesse. Est-ce que ce symptôme a un impact négatif dans un des trois domaines qui permet à l'enfant de grandir, c'est-à-dire la vie sociale, familiale et scolaire? Mon enfant bouge, il a 5-6 ans, mais au bout d'un moment, il reste quand même à table. À l'école, elle arrive à en faire quelque chose et il a des copains. Il n'est pas impacté dans tout ce qui va lui permettre de grandir. Par contre, si dans un des trois domaines, la famille explose, la maîtresse n'en peut plus, on le change de classe, on va le changer d'école et il n'est plus invité au goûter d'anniversaire, à ce moment-là, on peut imaginer que ce symptôme a dépassé, a franchi la ligne jaune et qu'on rentre dans quelque chose de pathologique.
Alors je suppose, Cécile, dans tous les forums, vous devez tomber sur ce mot TDAH, hein, qui est trouble déficit de l'attention, ça sort sans arrêt.
Ah oui, hyperactivité, il y a énormément de forums qui parlent de ça, beaucoup de parents qui s'inquiètent et beaucoup de parents qui témoignent de leur souffrance à eux. C'est vraiment ce qui ressort, je dirais, la première chose qui ressort des témoignages des parents, c'est ça, parce qu'on considère finalement que ce sont des mauvais parents. Ils ont l'impression qu'on les regarde, je suis une mauvaise mère, je suis incapable de tenir mon enfant. Alors, la souffrance des parents, c'est quelque chose que vous voyez, j'imagine,
oui,
en consultation.
Mais est-ce que c'est pas le truc qui est justement à la mode, parce que c'est toujours de la faute des autres? Alors, est-ce que les parents qui sont un peu dépassés font passer leur souffrance en premier?
Non, mais là, particulièrement dans le cas de l'hyperactivité, pour les parents, c'est la double peine. C'est-à-dire que j'ai un enfant difficile à gérer, et en plus, derrière, on me le reproche comme si je l'avais mal élevé. Trop
alors,
dur.
Alors, vous, les psychiatres, vous avez bien défini cette maladie qu'on appelle le trouble déficit de l'attention. Il y a trois grands symptômes. Oui. Hein. Vous pouvez nous les donner
Oui, donc il y a l'hyperactivité motrice.
Alors, ça, c'est bon, c'est celui qui bouge.
Il grimpe de partout, ouais. Il se balance, il tombe de sa chaise. On lui dit toujours non parce qu'il prend des risques. Il y a le trouble d'attention qui va le gêner, lui, au niveau scolaire, parce qu'il oublie ses affaires, il remplit pas correctement ses cahiers, il a pas marqué sur son agenda, il est distrait par son copain qui fait bouger son stylo. Et il y a l'impulsivité, qui est la plus pénible sur le plan social, là, parce que même ses copains ont du mal avec cet enfant qui coupe la parole.
Faites-nous bien la différence entre l'agitation et l'impulsivité, parce que ça peut être confusant.
L'agitation, c'est moteur, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en mouvement. L'impulsivité, c'est l'incapacité à attendre. C'est l'incapacité à, quand j'ai envie de quelque chose, je ne peux pas différer mon plaisir de mon désir.
Donc j'ai un enfant agité, qui a un déficit de l'attention et qui est impulsif, et il est très
à risque,
et donc cela, il faut consulter.
Ah ouais, il faut consulter. Alors il faut consulter d'abord le médecin, comme on le disait tout à l'heure, parce que peut-être que tout simplement, eh bien, il n'entend pas bien et qu'il est obligé de compenser une hypoacousie, c'est-à-dire un trouble de l'audition par son agitation, et du coup il parle fort parce qu'il ne se fait pas comprendre, etc. Quand il y a du bruit autour de lui, il est perdu. Donc le médecin qui va dire, bah non, oui, effectivement, il n'a pas de problème auditif, on va l'adresser vers un neuropédiatre ou un pédopsychiatre.
Ça touche combien d'enfants? Parce que sur les blogs,
3-5% des enfants.
C'est-à-dire
1 à 2 par classe.
C'est-à-dire 1 ou 2 par 400 000 enfants
à peu près.
De 4 à 18 ans.
C'est ça.
Voilà.
Bon,
écoutez, Cécile, un mot?
Non, juste pour l'âge, le diagnostic, on peut le poser à quel âge? Puisque on dit à 3-4 ans, les parents s'inquiètent, mais on peut le poser dès 3-4 ans, ce diagnostic?
À 3-4 ans, on peut commencer à s'inquiéter, mais une fois encore, on ne sait pas si à 6 ans, quand on va lui dire de s'arrêter et de s'asseoir à table en CP, ça va marcher. Donc on ne pose pas le diagnostic pour répondre avant l'âge de 6 ans.
Alors, vous avez un enfant chez qui vous soupçonnez ce trouble déficit de l'attention hyperactivité. Et bien, on va voir dans... Invité aujourd'hui, Cécile Koumous, qui est journaliste spécialiste des questions de santé, le docteur Olivier Revol, chef de service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique au CHU de Lyon. On parle de trouble déficit de l'attention. Je vous rappelle les trois piliers de la maladie, l'hyperactivité, les troubles de l'attention et l'impulsivité. Est-ce que ça touche plus les garçons que les filles?
Alors, classiquement, il y a 5 garçons pour une fille, mais là, il y a une petite subtilité, c'est que les filles ont plutôt le mode inattention pure, sans avoir l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est-à-dire que dans le diagnostic, on n'est pas obligé d'avoir les trois choses pour rentrer dans le diagnostic de TDAH.
Cela dit, alors vous compliquez les choses, parce qu'on a bien pris le temps de décrire l'hyperactivité. Là, maintenant, vous dites, chez la fille, il faut faire plus.
Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les fillettes, parce que ça retarde le diagnostic et que souvent, je vois les parents arriver au bord de la crise de nerfs en 6e ou en 5e en disant, ma petite fille modèle est en difficulté à l'école, je ne comprends pas pourquoi. Elle avait un TDAH qui ne se manifestait que dans les apprentissages.
Alors vous dites que ça commence tôt, vers 3-4 ans. Est-ce qu'on peut avoir des gamins dont on s'en rend compte même quand ils sont petits bébés?
Alors quand on reprend l'histoire avec les parents, et c'est toujours très important de savoir depuis quand ça existe, parce que honnêtement, on porte pas le diagnostic si à 8-9 ans, votre petit garçon se met à bouger et qu'il bougeait pas avant. Il faut absolument, et c'est un critère diagnostique, qu'on ait eu ce problème depuis toujours. Et les mamans racontent que déjà bébé, j'en ai une qui me disait récemment, déjà dans la couveuse, il donnait des coups avec sa tête sur la couveuse, donc c'était bien parti. Et puis ensuite à la crèche, eh bien c'était très compliqué. Bref, ils ont toujours une histoire qui est marquée par leur agitation.
Vous êtes un ancien hyperactif, vous?
Toujours, parce que je suis resté hyperactif.
Oui, alors je signale que
un jour, hyperactif toujours.
Et il parle vachement bien, Olivier Revol, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle « On se calme, enfant agité, parents débordés ». J'ai un ado, mais je me soigne, c'était le précédent, celui-là c'est le nouveau. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, vous en avez souffert, parce qu'on ne parle pas du tout de la souffrance de l'enfant. On dit les parents, ils morflent, les enseignants, c'est pas facile. Et l'enfant, il souffre, lui, pas?
Eh bien, d'abord, l'enfant, il souffre tant qu'il n'a pas compris quel était son problème. Et si on lui dit tout le temps qu'il est mal élevé... Alors, vous savez qu'à mon époque, enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, Jean-François, mais moi, j'allais dans les supermarchés, j'étais attaché. J'avais une laisse, un harnais et une laisse. Et on promenait les enfants hyperactifs en laisse.
Ouais, enfin, bon,
il n'y a pas que moi, hein, je vous promets.
Mais moi, j'avais des parents qui avaient un enfant qui était tout à fait normal, délicieux,
ben, ouais,
et gentil.
Ça,
et on
n'a
pas besoin de mettre une laisse pour aller faire les courses.
On n'est pas tous à égalité, c'est bon. Ça.
Cécile Coumeau.
Alors, sur les forums, les blogs, il y a des anciens hyperactifs qui témoignent aussi. Donc, justement, de leur souffrance, et manifestement, ce qui les fait beaucoup souffrir, en tout cas, c'est ça dont ils témoignent, c'est qu'ils deviennent et souffrent. Enfin, pas des souffre-douleurs. Ils sont exclus du groupe, quoi. Plus personne ne les invite parce qu'ils saoulent tout le monde, honnêtement. Plus personne ne veut d'eux. D'ailleurs, les parents disent aussi, mais là, je peux rien faire, mon gamin, plus personne n'a envie de jouer avec lui. Et c'est une souffrance aussi pour les parents, mais apparemment, être exclu du groupe, c'est vraiment très, très mal vécu par ses enfants.
Mais est-ce qu'on peut optimiser l'hyperactivité? Vous êtes un ancien hyperactif, ça vous a servi ou desservi dans votre vie professionnelle?
Ça m'a servi et desservi, mais l'idée, justement, à transmettre à tous les parents, d'ailleurs d'enfants différents, quels qu'ils soient, c'est que cette différence peut devenir un atout. Et il faut se débrouiller pour en faire un tremplin. Ce qui était un handicap, on le transforme en tremplin.
Alors, est-ce qu'il y a plus d'hyperactifs parce que la mode est au diagnostic ou est-ce que c'est parce que c'est notre milieu qui les suscite? Et d'abord, dans les premières causes, est-ce que l'hérédité est un jeu? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes hyperactif? Est-ce que vous devez faire attention à ce que vos enfants ne le soient ou ne le soient pas?
Ah oui, j'ai fait attention, ça c'est sûr. Et j'en ai forcément, sur le nombre, un au moins qui est hyperactif. Donc oui, c'est héréditaire, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a le terrain, comme pour tous les problèmes médicaux d'ailleurs, on a le terrain à développer un trouble. Et puis si l'environnement est venu souffler sur les braises, et honnêtement, la société souffle sur les braises actuellement parce qu'elle est hyperactive, on voit exploser le nombre d'hyperactifs actuellement.
Alors j'ai regardé un petit peu les dernières découvertes sur le sujet. On dit consommation pendant la grossesse d'alcool, de drogue ou tout simplement de tabac.
On dit plein de choses. On dit plein de choses. Rien n'a été vraiment prouvé. Ce qui est sûr, c'est la grande prématurité, par exemple. Les grands prémas ont plus de chances d'être hyperactifs, mais il y a certainement aussi une exposition à des toxiques pendant la grossesse. Mais là encore, c'est des hypothèses en cours.
On dit diabète pendant la grossesse.
Pareil, c'est une hypothèse qu'on est en train d'explorer.
Bon. Avant de faire un traitement, parce qu'on va voir que le traitement est parfois un peu difficile, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un enfant hyperactif qu'un enfant mou?
Ça dépend des parents.
Oui.
Ça dépend des parents, Jean-François. Il y a des parents qui, dans leur ADN, ils sont équipés pour avoir un enfant calme, tranquille. Et puis dans d'autres, eh bien, ils aiment mieux avoir un enfant agité.
C'est quoi le risque de l'hyperactivité? C'est des études ratées?
D'abord, c'est un risque pour la santé. C'est des enfants qui se blessent, qui ont souvent d'ailleurs des cicatrices sur le visage, qui ont un bout de dent qui a disparu sur les incisives médianes.
Mais c'est difficile de faire la différence avec l'automutilation, là, comment vous faites?
Non, ils tombent tout le temps, ils font pas attention, ils grimpent de partout, ils se mettent en danger. Pour moi, c'est des paratonnerres. Et ils attirent la foudre. Dès qu'il y a un problème, c'est sur eux que ça tombe. Bon, bref. Donc, le premier risque, pour répondre à votre question, c'est la santé. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la non-intégration sociale et scolaire et l'échec scolaire chez des enfants a priori intelligent, voire souvent plus intelligent que la moyenne, c'est quand même un peu compliqué à digérer.
On dit qu'il y a beaucoup plus de dépressifs parce qu'ils sont un peu malheureux de tout ça.
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire que vous avez un premier domino neurologique qui fait qu'on n'est pas équipé pour être attentif, qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino estime de soi, et on peut aller vers la dépression tant qu'on n'a pas été repéré.
Alors avant de détailler le traitement, est-ce que tous les hyperactifs doivent être traités?
Ah ben non, bien sûr que non.
Lesquels sont traités alors?
Ceux qui sont en grand danger.
Oui, mais comment?
Vous savez, il y a un gradient, comme pour tout. Il y a des hyperactivités légères et le gamin va s'en sortir parce que le milieu familial est supporter, parce que la maîtresse a bien compris le truc. Et puis, il y a des enfants hyperactifs qui sont d'emblée en difficulté parce que le milieu familial n'est pas contenant, ne les aide pas et puis les enseignants ne les ont pas compris. Ceux-là, il faut les aider.
Le traitement de l'hyperactivité, c'est dans un instant.
Pourquoi docteur?
Tous les dimanches, 13h, 14h sur Europe 1.
Jean-François Lemoine.
Nous sommes avec le docteur Olivier Revol, chef de service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'hôpital neurologique au CHU de Lyon, Cécile Coumeau, journaliste spécialisée des questions de santé. Et on va essayer de faire le point sur le traitement des hyperactifs. Alors apparemment, les Américains, ils ont un peu plus tranché que nous. Ils soignent beaucoup. Alors il y a un médicament dont on va dire le nom. Vous savez que dans cette émission, on ne donne pas le nom des médicaments, mais celui-là, vous le voyez partout. Ça s'appelle la...
Ça s'appelle le méthylphénidate, la molécule,
oui, mais
et qui est commercialisé sous le nom de Ritaline, voilà. De Concerta ou de Quasim. Il y a trois formes en France.
Non, les trois formes, ça tout le monde sera d'accord. Simplement, vous allez voir des forums extrêmement nombreux là-dessus, je suppose.
Oui, c'est tout le monde en parle. Et c'est vrai que les parents en ont un peu marre qu'on diabolise ce médicament, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui témoignent et qui disent « Moi, mon enfant a pris de la Ritaline, enfin a pris de ce médicament ou une méthylphénidate, et ça l'a extrêmement soulagé, et ça l'a calmé. » Voilà, c'est pas un mauvais médicament qu'on doit diaboliser, disent-ils. Enfin voilà, c'est ce qui ressort des certains forums.
Aux États-Unis, ils ont le méthylphénidate très facile. Les médecins, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une attitude qui a tendance à arriver dans notre pays ?
Non, ça n'arrivera pas dans notre pays. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs millions d'enfants traités en Amérique du Nord. Je pense qu'on dit actuellement qu'il y a un garçon sur 10 qui est traité par un méthylphénidate ou des molécules associées.
C'est énorme.
C'est énorme. Pour différentes
pour
raisons.
Pour combien en France ?
40 à 50 000.
D'accord.
Donc on est très loin,
très loin
du compte. Mais on n'y arrivera jamais en France parce que Dieu merci, ça restera en France. La prescription, elle est protégée. Elle ne peut s'initier uniquement à l'hôpital par un neurologue, un pédiatre ou un psychiatre.
C'est-à-dire que vous avez le droit de donner de ce produit. Moi qui suis juste médecin généraliste qui est inscrit à l'ordre, mais je ne peux pas faire d'ordonnance.
Même un pédiatre ou un psychiatre en ville ne peut pas faire la première prescription.
On peut renouveler.
On peut renouveler pendant un an. Alors, et après, il faut retourner à l'hôpital.
Pourquoi parce que c'est extrêmement choquant pour les gens qui nous écoutent de dire que les Américains font ce qu'ils veulent, il suffit de traverser un océan pour qu'en fait ça soit différent. Qui a raison là-dedans ?
Je pense que la position française est adaptée et j'aimerais bien qu'elle ne change pas parce que c'est une décision importante à prendre de traiter comme c'est une décision importante de décider de ne pas traiter. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui en ont besoin et il faut être évalué par des spécialistes qui ont l'habitude de cette problématique-là, qui peuvent éliminer les autres diagnostics qui sont susceptibles de faire bouger un enfant, parce qu'une fois encore, l'agitation c'est un symptôme, comme la fièvre, c'est pas une maladie, on peut bouger pour d'autres raisons. Donc c'est important d'aller voir un spécialiste qui connaisse ça.
Alors s'il y a 10% des petits Américains qui sont sous ce produit, on a dû pouvoir l'évaluer et avoir une vraie réponse aujourd'hui pour dire, il a tel effet secondaire, il a tel défaut. Est-ce que vous...
Alors, ça, c'est une bonne réponse à donner aux parents. C'est-à-dire que cette surconsommation de Ritaline en Amérique du Nord ou apparentée, eh bien, fait que s'il y avait des problèmes, ça se saurait. Parce que ça fait longtemps qu'ils en donnent beaucoup et beaucoup trop.
Et il n'y en a pas ?
Non, il n'y en a pas.
Alors, quel est le problème ? Pourquoi vous êtes l'espèce de juge de paix qui risque de passer à côté de nos traitements ?
Parce qu'on ne donne pas un médicament qui est puissant à n'importe qui. Et
d'accord.
Qu'on doit faire un diagnostic.
Et on ne peut pas faire. Oui, Cécile.
Oui, alors justement, pour les parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent, on dit OK, on ne le donne pas à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on donne à ceux à qui on ne donne pas ce médicament ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les prend en charge ?
La règle est de ne pas commencer par ce traitement. Il y a d'autres stratégies qui sont des stratégies éducatives, des stratégies pédagogiques. Il y a d'autres formes de prise en charge. La psychomotricité marche très bien. Normal, hein, on leur apprend à contrôler leur impulsivité dans le cadre de la rééducation psychomotrice. Bon bref, il y a d'autres choses à faire d'abord avant de donner la Ritaline. La Ritaline doit venir en deuxième intention et toujours associée d'ailleurs à la poursuite d'aménagement pédagogique, c'est-à-dire d'aide à l'école, d'expliquer à la maîtresse comment il faut faire et puis d'aménagement éducatif, de conseils à donner aux parents.
Alors vous, la prescription c'est de dire, je crois en France c'est jamais avant un certain âge.
Jamais avant 6 ans.
Alors qu'aux États-Unis,
avant.
Avant. Hein. Jamais avant 6 ans. Et quand le diagnostic est confirmé par un examen très précis.
Oui, en tout cas, pas forcément par un test neuropsychologique, mais ça peut aider, c'est-à-dire évaluer les compétences attentionnelles. Est-ce que cet enfant de 6 ans, qui a une intelligence de 6 ans, a les compétences attentionnelles d'un enfant de 6 ans ? Oui ou non ? Mais on peut se passer de ce test si on est un médecin expérimenté qui a pris le temps quand même d'aller faire une enquête à l'école, à la maison, parce que la règle d'or, c'est que le trouble, il doit exister de partout.
Attendez, vous avez dit un médecin qui a pris le temps de faire une enquête. Mais attendez, vous décrivez un médecin qui n'existe que dans les livres, là.
Mais non, tranquillou, il y a plein de petites échelles qu'on transmet à papa, maman. Ça, c'est des outils nord-américains qui sont très intéressants et que j'ai ramené du Canada. On fait remplir une échelle à papa, à maman, à la maîtresse, éventuellement à l'orthophoniste, à deux maîtresses, à plusieurs profs, et on les compare. Et si les résultats sont partout augmentés, on est devant un trouble constitutionnel.
Soyons clairs, remplir une échelle, parce qu'il faut être clair, remplir une échelle, c'est un questionnaire, c'est ça. C'est
pas petit questionnaire, rapide, tranquille.
Et ça, vous le faites systématiquement.
Ah, systématiquement. C'est la règle d'or, c'est le questionnaire de Connors, qui est très simple à remplir et qui nous donne une superbe photo de ce que pense la personne qui le remplit du comportement de l'enfant.
Bon, pour clore ce chapitre de l'enfant hyperactif et pour passer à la différence avec l'enfant triste et qui bouge peu, on peut dire qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les parents ?
Ah, certainement, oui. Hein, c'est le premier stade, c'est de leur dire vous êtes responsable du bien-être de votre enfant, mais pas coupable de ses troubles du comportement.
Mais surtout dire à l'enfant qu'il n'est pas paresseux, qu'il n'est pas débile.
Bien sûr, et qu'il ne le fait pas exprès.
Et il faut lui dire.
Ah, il faut lui dire, il faut lui expliquer, preuve à l'appui. Mais par contre, exiger de lui que ça change. C'est-à-dire qu'il y a une attitude à avoir avec ses enfants, c'est la fermeté bienveillante.
Dites-moi, Cécile, c'est ce qui apparaît le plus, parce que là on va passer sur l'enfant triste, l'enfant hyperactif c'est quand même la star des forums ou ça,
ah c'est oui, 50-50. C'est celui dont on parle le plus, effectivement, peut-être parce qu'il y a plus de souffrance des deux côtés, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et juste une précision, c'est vrai que ceux qui s'expriment beaucoup, je voulais demander au docteur Revol si c'était réel, c'est que c'était beaucoup de mères seules ou de familles recomposées. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile à gérer quand on est seul ou est-ce que on est moins contenant? Enfin, quelle est l'explication?
C'est exactement ça. Quand on a un enfant hyperactif, Cécile, eh bien, on a intérêt à avoir un papa et une maman qui soient cohérents ensemble dans leurs principes éducatifs, qui puissent passer la main à l'autre quand ça ne va pas bien, parce que c'est toujours celui qui est le plus disponible psychiquement qui peut aider l'enfant à ce moment-là.
Allez, on passe à l'enfant trop calme.
Europe 1. Pourquoi docteur ? Pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine.
Olivier Revol est médecin, neuropsychiatre, Cécile Comeau, journaliste spécialisée sur les questions de santé. On vient de faire un large point sur les enfants hyperactifs et ceux qui ont des enfants qui sont un petit peu, qui communiquent moins, doivent se dire, moi j'aimerais bien que le mien le soit un peu plus. C'est moins fréquent les enfants qui posent des problèmes parce que ils ont des difficultés à communiquer, de se faire une place, Olivier Revol.
Alors c'est moins fréquent, mais c'est surtout moins bruyant. Donc on les remarque moins et on sollicite moins les médecins, l'école, pour savoir comment ça se passe. C'est les enfants qui courent le risque d'être laissés dans un endroit et puis on s'en occupe pas trop. Donc il faut être vigilant.
C'est une préoccupation sur les forums, Cécile Comeau, mais qui est quand même moindre. Hein.
Bien moindre.
Pourtant, il y a un diagnostic qui épouvante tous les parents, qui est celui de l'autisme. Alors est-ce qu'on peut faire un lien entre ces enfants qui sont un petit peu moins agités, un peu tristounés, chronique mal, et puis l'autisme, ou alors vraiment il y a une vraie différence entre les autres.
Il y a une vraie différence, c'est-à-dire que l'enfant autiste, il a quand même une particularité, c'est qu'il est jamais vraiment rentré dans une communication standard, aussi bien visuelle qu'avec le langage, avec ses parents.
Jamais, vous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment imaginer qu'un gamin est à peu près normal, un peu peut-être communique un peu moins que les autres, et va d'un seul coup déclencher un autisme. Il est autiste un jour, autiste toujours.
Certainement, parce qu'il y a une règle quand même dans notre spécialité, c'est que tous les troubles qui ont toujours existé sont plutôt d'ordre constitutionnel, et que si d'un seul coup vous avez eu un développement normal et vous mettez à chuter à l'école, ou vous mettez à bouger, ou vous mettez à vous replier sur vous-même, là on est plus dans quelque chose de psychologique qu'il faut chercher dans un éventuel traumatisme ou une relation qui est en train de se dégrader. Donc ces enfants-là, eh bien c'est des enfants, on a le droit quand même d'être introverti, de pas avoir envie de bouger, de garder des secrets pour soi, et c'est pas pour ça qu'on est malheureux.
Ouais, alors, comment fait la différence, parce que là c'est encore beaucoup plus difficile que pour l'enfant hyperactif.
Et si on reprenait ma règle de tout à l'heure, Jean-François ?
Alors on reprend la règle.
Est-ce qu'il y a un retentissement familial ? À la maison, on ne peut rien en tirer, il est tout seul dans sa bulle. Social, il n'est jamais invité aux anniversaires. Et scolaire, c'est-à-dire que la maîtresse ne l'entend pas et dit qu'elle ne peut pas le noter. Non, il n'y a pas de retentissement, il est secret, c'est un enfant qui est calme, mais c'est sa nature, on ne va pas le forcer à bouger alors qu'il a quand même des copains, qu'il a invités et qu'à la maison, eh bien, il est un peu plus renfermé que les autres, mais souriant.
Tout à l'heure, vous nous avez donné un très bon moyen de savoir si l'enfant est hyperactif, une espèce de trépied de signe. Est-ce qu'on a les mêmes choses sur l'autisme ?
Alors sur l'autisme, ça correspond à, dans la définition, correspond à deux caractéristiques qui sont clés. C'est d'une part des troubles de la communication et des interactions sociales, de la relation avec l'autre et très tôt vis-à-vis des parents, avec un regard fuyant. C'est la première chose qu'on doit remarquer. Et c'est là encore que le rôle du médecin traitant est important parce qu'on peut avoir un regard fuyant parce qu'on a un problème de vision. Et vous savez que dès les premiers mois de vie, on peut aller chez bébé vision. Donc avant de dire que l'enfant est autiste, il faut aller vérifier si cet enfant voit bien.
Bébé vision, c'est quoi ?
Bébé vision, c'est dans les centres hospitaliers spécialisés avec des services d'ophtalmo où très tôt, dès les premières semaines de vie, on peut voir ce que l'enfant voit vraiment.
Même problème, je suppose, pour l'audition parce qu'un enfant qui entend très mal.
Pareil pour l'audition, on leur fait des potentiels évoqués auditifs pour savoir. Il ne regarde pas. Il ne regarde pas et il n'y a pas que la communication visuelle qui ne marche pas, il y a la communication motrice. C'est-à-dire que vous savez qu'à 6 mois, un enfant tend les bras pour se faire prendre quand il est assis dans le lit. Lui, il ne tend pas les bras. Et puis très vite, on s'aperçoit que cet enfant ne comprend pas les attentes de ses parents et que quand sa maman, je vous donne un exemple, sa maman lui montre quelque chose avec son doigt en pointant son index, eh bien lui, il ne comprend pas qu'elle veut lui montrer quelque chose et il regarde le bout de son index. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas acquis dans la compréhension, et là on sait que c'est un problème neurologique, dans la compréhension des attentes et des émotions d'autrui.
C'est des choses assez simples. On peut penser que le dépistage des parents doit être assez rapide là-dessus.
Oui, sauf si on est préoccupé par d'autres choses. Sauf si on a à côté un enfant hyperactif qui fait beaucoup de bruit et qu'on est bien content d'avoir celui-là qui ne bouge pas. Et on ne se rend pas compte que, eh bien, il a, et c'est le deuxième point du diagnostic, hein, outre cette difficulté de communication, c'est des intérêts répétitifs et restreints. C'est-à-dire qu'il s'intéresse qu'à une chose. Il fait rouler des petits trous de voiture, il regarde les lumières et il ne sort pas de ça. Donc un enfant qui aurait un problème de langage, mais pas tous, hein, vous savez que les autistes de haut niveau, les syndromes d'Asperger sont des enfants qui parlent et donc ils font illusion pendant très longtemps. Et pourtant, ils ont aussi ce problème de communication et de comprendre ce que l'autre attend. Bref, ils n'ont pas le même langage que les autres. Je rajouterais juste une chose, Jean-François, c'est que par rapport à votre question tout à l'heure, est-ce qu'il faut les repérer tôt ? Oui.
Oui, et alors justement, cette question-là, on va dans les forums, les parents se plaignent énormément que leur enfant a été diagnostiqué très tard, qu'ils ont eux-mêmes évoqué des diagnostics d'autisme et que c'est tombé à 6-7 ans. On est encore très en retard, j'ai l'impression, dans
oui,
ce domaine-là.
Oui, on est très en retard parce que c'est quelque chose qui était moins bien connu. Et puis, une fois encore, c'est pas bruyant. Alors que, une autre métaphore, ces enfants-là n'ont pas le même langage, n'ont pas la même langue pour communiquer que les autres. Eh bien, plus on apprend une langue étrangère tôt, plus on arrivera à se l'approprier.
On parle de l'autisme et dans un instant, on va voir un peu la gravité.
Pourquoi docteur ?
Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Jean-François Lemoine.
Olivier Revol, chef de service de neuropsychiatrie à Lyon. Cécile Coumou, journaliste spécialiste des questions de santé. On vient de voir que le diagnostic de l'autisme, moi je pensais qu'on pouvait le faire beaucoup plus tôt que celui de l'enfant hyperactif. Apparemment, il y a du retard au diagnostic.
Non, on devrait, on peut le faire tôt et de plus en plus.
On devrait pouvoir le faire plus tôt, théoriquement.
Il faut y penser. Il faut y penser et il y a de partout maintenant des centres qui sont en place dans toutes les régions de France qu'on appelle des CRA, Centres ressources autisme, où à tout moment on peut demander une évaluation très spécifique de ces troubles-là à une équipe pluridisciplinaire qui va donner un avis.
C'est fréquent l'autisme.
Alors maintenant on a vraiment élargi le diagnostic d'autisme puisque dans la dernière classification américaine qu'on appelle le DSM-5, eh bien on parle de TSA, trouble du spectre autistique, et on pense que c'est 1 sur 150 enfants. Ça va de l'autisme complètement replié sur lui-même qui n'a pas de langage, aux autistes de haut niveau, aux Asperger, mais on est sur une frange qui est quand même assez importante.
Je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes parce que c'est vrai que j'oublie toujours d'en parler dans cette émission-là. Vous voyez, le docteur Revol vient de parler du DSM-5. Ouais. Alors, il faut savoir que, vous m'arrêtez si je me trompe, les Américains ont voulu mettre la psychiatrie dans un livre, c'est-à-dire de dire que la psychiatrie, ça doit se diagnostiquer comme les autres maladies, et on a tout un tas de critères, et quand à la fin on a tous ces critères-là, on fait le diagnostic. Ça a toujours été refusé par les Français, du moins les vieux psychiatres français. On en est où de ce débat ? Parce que ça simplifie vraiment la compréhension de la psychiatrie.
Vous mettez dans les vieux ou les jeunes là ?
Bah, je vous mets dans les jeunes. Moi.
Ah, vous êtes gentil, vous êtes très gentil. Alors, oui.
Est-ce que vous l'utilisez ?
Bah oui, on l'utilise et on est obligé de l'utiliser. Je pense que je comprends la position de certains psychiatres français qui disent...
C'est les psychanalystes.
Oui, les psychanalystes, mais qui ne voulaient pas, puis d'autres qui ne voulaient pas mettre des étiquettes trop tôt aux enfants et qui avaient l'impression si on enfermait l'enfant dans une étiquette. Oui, mais voilà, vous avez raison. Le problème, c'est que si on ne met pas le diagnostic, eh bien, ça retarde.
Alors, est-ce que les parents qui vont consulter, parce qu'on peut le consulter sur Internet, ce DSM-5,
oui.
Est-ce que c'est un bien ou un mal, ou est-ce que ça vous déblaye un peu le terrain
Ça nous déblaye bien le terrain. Ça n'explique pas pourquoi l'enfant a ces difficultés-là, mais ça permet que des médecins, des professionnels de différentes catégories, de différents endroits, parlent de la même chose et puissent finalement confronter une même cohorte d'enfants. Et pour les études, c'est fondamental.
Alors, on a vu pour l'enfant hyperactif qu'il y avait des vrais traitements. C'est facile à mettre en... Pour l'autisme, on patauge un peu.
Il n'y a pas de traitement pour l'autisme, si ce n'est que le rééduquer très tôt pour que... on lui donne ce système de communication qu'il n'a pas à sa disposition. Et en particulier pour les plus grands, mais on a des groupes maintenant de partout d'habileté sociale. On lui apprend qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation parce que c'est pas inné chez lui. Il va falloir qu'il puisse l'acquérir.
Et là encore, on commence très tôt, hein, le
on
plus
commence,
tôt possible.
On peut commencer le
alors
plus
Cécile,
possible.
Je suppose que vous devez avoir des associations de parents qui se battent parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de gens fâchés quand même.
Oui, elles se battent notamment et encore aujourd'hui pour dire arrêtez de nous culpabiliser parce que même si on n'arrête pas de dire que c'est une maladie, OK, c'est neurologique, enfin un vrai trouble. Et on entend encore des mères qui disent on m'a accusé, moi, mère, d'être à l'origine de l'autisme de mon enfant. Est-ce qu'on dit encore ce genre de choses ?
Alors, on le dit plus, mais ça a été horrible quand on était jeune. Vous vous souvenez,
Jean-François ? Vous êtes sûr qu'on le dit plus ? Parce que quand on lit les forums.
Où il y avait des débats incroyables entre.
Mais je crois que ça se dit encore, malheureusement. Hein, parce que
ça se dit encore.
Si on lit les forums.
Sans doute, mais de moins en moins. On a quand même maintenant un espèce de consensus pour dire que la maladie autistique, le trouble du spectre autistique, est lié à une dysfonctionnement neurologique et qu'il y a après des interactions avec la famille qui rentrent. Bien sûr, c'est toujours dans ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire l'enfant, son terrain et l'environnement. Donc on travaille sur l'ensemble. Mais au départ, il faut arrêter de culpabiliser les parents.
Dites-moi, je vais faire un peu de médecine fiction, j'aime bien que j'aime pas faire ça, mais pour lire beaucoup et rencontrer beaucoup de médecins tout le temps dans mes émissions, j'ai l'impression qu'on est à deux doigts de trouver et que c'est une espèce de dérèglement qu'un jour on va trouver l'autisme.
Hein. Mais je pense qu'on le connaîtra.
Mais peut-être un dérèglement même biochimique à l'intérieur du cerveau.
Mais bien sûr. Vous savez, on découvre, les généticiens découvrent régulièrement, tous les mois, des nouvelles anomalies qui étaient microscopiques auparavant et qu'on est en train de mettre en évidence. Et on trouvera un jour, j'en suis persuadé. Je pense qu'on le connaîtra.
Parce qu'on peut pas laisser les parents avec ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de traitement de l'autisme. Il y a une prise en charge.
Mais déjà, la prise en charge, elle est extrêmement intéressante parce que moi, j'ai vu des enfants qui rentraient dans la communication et qui arrivaient à apprendre à communiquer alors que si on n'avait rien fait, ils ne l'auraient pas appris.
Allez, on va le faire peut-être un peu vite, mais j'aimerais qu'on l'aborde. Est-ce qu'il existe une dépression de l'enfant?
Ah bah, ouais.
Ouais, non, mais justement, je sais bien, mais je vais insister là-dessus.
Bien
sûr. Selon sur les enfants,
Mais vous avez raison, on est dans le même champ que ce qu'on vient de dire, la dépression de l'enfant.
C'est pour ça que j'en parle.
La dépression de l'enfant, elle est sournoise parce qu'elle ne se voit pas. C'est 5% des enfants qui sont déprimés. On a fait faire une étude il y a quelques années avec les pédiatres nationaux. Oui, il y a 5% d'enfants.
C'est comme le nombre d'enfants hyperactifs, qui font une vraie
dépression, qui mérite une vraie prise en charge. Sauf que là encore, la dépression de l'enfant est mal connue. Et figurez-vous que chez le garçon, par exemple, le premier signe de dépression de l'enfant dès 3, 4, 5 ans, c'est l'agitation, l'agressivité, l'impulsivité. Donc vous voyez comment on peut se tromper au niveau du diagnostic.
Oui, et puis je suppose qu'entre un enfant triste, un enfant qui est un peu tendance peut-être autiste et déprimé, ça doit être aussi très proche l'un de l'autre.
Alors la question elle est simple, c'est l'histoire. Est-ce qu'il a toujours été comme ça ou est-ce que c'est nouveau? Un enfant qui depuis 15 jours a changé de comportement, se met à mordre les autres en maternelle alors qu'il ne le faisait pas, on doit d'abord se poser la question de la dépression.
Ce qui est bien avec vous Olivier Revol, c'est que vous avez toujours le chic pour nous dire, il faut absolument qu'on fasse une nouvelle émission parce que c'est un vrai sujet.
J'adorerais.
La dépression de l'enfant. Rendez-vous est pris cette année.
Europe 1.
Pourquoi docteur?
Pourquoi docteur? Jean-François Lemoine.
C'est la dernière séquence de cette émission passionnante sur l'enfant. Alors on va terminer parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Des enfants surdoués. Alors, les enfants surdoués, est-ce que c'est pas une espèce de fourre-tout dans lequel on va ranger les emmerdeurs? Je ne sais pas mes mots, mais...
Non.
Je vous provoque un petit peu.
Vous savez que c'est.
Il y a autant de surdoués que. Parce qu'on entend, il n'y a pas de repas de famille, de choses comme ça. C'est-à-dire, ah oui, mais il a un QI très important, c'est un surdoué.
Bah, heureusement, on a découvert que ça existait.
Et ah bah oui, non, ça, j'ai pas dit que ça existait
au
pas.
Au siècle dernier, on n'y croyait pas. On sait maintenant qu'il y a 3% d'enfants surdoués, donc pareil, 1 à 2 par classe. Et ces enfants-là, eh bien, ils méritent qu'on s'y arrête parce que plus tard on fait le diagnostic, eh bien, plus tard on met en place des aménagements tellement simples qui vont leur changer la vie que c'est dommage.
Alors, c'est clair, il n'y a pas de traitement des enfants surdoués.
C'est pas une maladie.
On va pas les dégrader, c'est pas une maladie.
Il ne faut pas en faire une maladie.
Il ne faut pas en faire une maladie, c'est juste un problème. Donc, il n'y a pas de traitement. En revanche, il y a un test très important. Tout le monde connaît quel QI, mais est-ce qu'on ne met pas toutes les sauces?
D'abord, le QI, c'est un des éléments du diagnostic. Vous savez que la définition de l'enfant surdoué qu'on dit maintenant à haut potentiel, c'est le terme qui me paraît plus adapté.
Oui, c'est mieux.
On a dit précoce à un moment donné, mais précoce, ça voulait dire qu'on laisse imaginer qu'il est en avance, puis les autres vont le rattraper.
Oui, puis on a fait une émission sur la puberté précoce il n'y a pas très longtemps, vous allez créer le doute. Là.
D'accord, donc on dit plus précoce,
allez,
On dit haut potentiel, c'est-à-dire qu'il a un potentiel, il va s'en servir ou pas. Alors, le QI, oui, la définition, c'est un enfant qui a un QI supérieur à 130, mais là encore, imaginez que vous soyez surdoué, Jean-François, et que vous ayez parallèlement une dyslexie ou un problème de maladresse ou un trouble d'attention. Votre QI global, il ne sera pas au-dessus de 130, alors que vous êtes vraiment surdoué, je le pense. Bon bref, imaginez ça. Donc, le QI global ne veut rien dire, mais c'est intéressant. En général, le QI verbal, la partie langagière, est au-dessus. Mais par contre, on oublie le reste, et un enfant surdoué, c'est un enfant qui est intelligent, bien sûr, mais qui est aussi hypersensible et surtout, et je crois que les parents le reconnaissent tous, qui a la rage de maîtriser, qui veut contrôler tout ce qui se passe, qui veut choisir ses habits, qui veut faire tout seul.
Ah, vous également, je vous renvoie le compliment parce que vous êtes apparemment un surdoué, mais... Mais seulement, là, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que le QI, ça sert à rien, mais que c'est le QI qui définit et que c'est encore des signes. Alors, on fait quoi?
Le QI, c'est un des éléments, mais le QI doit être...
C'est pas remboursé, le QI.
Non, c'est pas remboursé.
Il faut savoir que les parents qui disent, je vais faire passer un QI à mon gamin.
main. Sauf si vous le faites faire dans le cadre de l'école par la psychologue scolaire qui est tout à fait habilitée à le faire.
Ah bon, d'accord.
Donc, le
mais
QI...
vous avez le droit de le demander ?
Bien sûr.
Ah bon ?
Bien sûr, c'est
bon, alors, le
scolaire.
QI, ouais. Vous dites, c'est relatif. Alors, on fait quoi ? On a
alors,
un enfant.
On fait un QI, on analyse le QI. On n'analyse pas un chiffre global, mais la façon dont ce QI s'est construit. Et qu'il y a des éléments dans le QI, des questions qui sont très représentatives de l'intelligence de l'enfant. Et puis, on met ça en perspective avec son comportement, sa sensibilité, son besoin de contrôle et de maîtrise, son sens de l'injustice et tout un panel de petits symptômes qui vont nous permettre de dire à la fin, oui, vous avez un enfant à haut potentiel.
Cécile Comeau.
Alors, toujours sur les forums et les blogs que j'ai regardés, là, ce qui ressort, encore une fois, parce que je me fais porte-parole d'un peu des parents, c'est qu'ils sont aussi épuisés, ces parents qui ont des enfants à haut potentiel, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut les nourrir en permanence de nouvelles activités, de visites, de choses comme ça. Est-ce qu'effectivement, il faut les nourrir en permanence, ces enfants, est-ce ou est-ce qu'on alimente finalement un puissant fond ?
Est-ce qu'il faut les regrouper dans des usines à futur prix Nobel ?
Non. Non, l'école idéale pour l'enfant au potentiel, celle de son village ou de son quartier où il a ses copains de proximité. Alors pour répondre à la question de Cécile, qui est effectivement très juste, c'est est-ce qu'il faut les nourrir et pourquoi ? Eh ben oui, il faut les nourrir parce que ces enfants-là sont en attente, ils sont curieux de tout, ils sont intéressés par tout très tôt. Pourquoi c'est compliqué ? Eh ben on le comprend très bien, ils argumentent, ils parlent comme des livres à 2 ans. Donc ils ont les moyens d'expliquer pourquoi ils veulent pas aller se coucher, pourquoi ils veulent s'habiller avec tel habit parce que l'étiquette les gratte, etc. Bon bref, donc il faut les nourrir aussi parce que si on nourrit pas l'intellect de ses enfants, un, il s'ennuie. Et quand un enfant à haut potentiel s'ennuie, à l'école ou à la maison, il pense. Or, l'effet loupe de la précocité qui fait qu'un enfant à haut potentiel, il voit les mêmes choses que les autres, mais en plus gros, comme à travers un microscope. Ou il voit des choses que les autres ne voient pas, comme à travers un microscope. Eh bien, si on ne le nourrit pas, il va avoir l'esprit envahi par des questions existentielles sur la mort, sur la planète, sur l'état de santé de papa, sur l'état de santé du couple, et qui vont le rendre très, très préoccupé. Donc, si on les intéresse à quelque chose, ils éviteront de penser à ces choses-là.
Alors, mon grand ami Georges Pernoud de Thalassa, que je salue, parce que c'est vraiment un ami, me dit toujours, dans l'éducation des enfants, c'est les 30 premières années qui sont les plus difficiles.
Oui,
est-ce que ça résume bien un petit peu tout ce qu'on vient de se dire ?
Je trouve ça très joli. Et puis, après, eh bien, on arrive à mieux se connaître et on sait quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place tout seul.
Et puis, on rappelle que le corps enseignant a un rôle extrêmement important.
On ne peut pas travailler sans eux, on a vraiment besoin de travailler main dans la main.
Il faut les respecter. Eh bien, merci à vous Cécile Comeau, merci à vous
Didier
Revol. C'était
merci,
comme d'habitude une émission passionnante. Et j'ai retenu, on va faire la dépression de l'enfant.
Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
C'est la fin de cette émission. Alors pour nous écrire, 26 bis rue François 1er dans le 8e arrondissement à Paris. Pour écouter l'émission ou celle que vous aurez ratée, c'est le site europe1.fr. On remercie Alexandra Dumont, notre assistante, notre ingénieur du son, Jérémy Leleu, et Corinne Reich, notre réalisatrice. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À dimanche prochain.